Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et bien chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous parle de la guérison par notre Seigneur Jésus-Christ de 10 lépreux. Les 10 lépreux s'approchent de notre Seigneur, ils ont entendu parler de ses miracles nombreux, et ils font un acte de foi en disant « Seigneur, ayez pitié de nous ». Et notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de faire le miracle immédiatement, a dit une phrase un peu surprenante. Il a dit « Allez, vous montrez-vous aux prêtres ». C'est en allant vers les prêtres que les 10 lépreux ont été guéris. Alors essayons de voir un peu ce que disent surtout les pères de l'Église de ce miracle. Je vous l'ai déjà dit souvent, notre Seigneur Jésus-Christ utilise presque toujours des choses matérielles que les gens connaissaient bien sur place. Il parlait des gens simples. Les gens savaient très bien certaines choses matérielles dont notre Seigneur parlait très souvent. Et le Seigneur va monter leurs âmes des choses matérielles vers les choses spirituelles. Des choses qui se voient vers les choses qui ne se voient pas. Du visible vers l'invisible, du fini vers l'infini. Et les pères ont tous dit toujours que la lèpre était pour eux un symbole du péché. Il y a 3 raisons à cela. La première, c'est que les premiers signes de la lèpre sont des taches brunâtres qui apparaissent sur la peau. Et la lèpre représente donc déjà dans ce cas-là le péché, parce que le péché commence par faire des taches sur l'âme. Au début, des petites taches qui s'en vont facilement, et puis après des taches plus graves. On appelle justement des péchés graves, des péchés mortels, qui elles s'imprègnent à la peau, elles ne peuvent plus être détachées toutes seules par la force naturelle. Et il faut donc les éloigner, les enlever, les détacher, les nettoyer avec des moyens surnaturels. Ensuite, deuxième chose qui apparaît chez le lépreux, c'est une odeur infecte, épouvantable, de chair en décomposition. Le lépreux, c'est quelqu'un, c'est une maladie épouvantable pendant laquelle le lépreux pourrit littéralement sur place. Une pourriture de ses muscles et même de ses os. Eh bien, les pères expliquent que cette odeur épouvantable représente la perte de la bonne odeur du Christ qui doit être en nous. Lorsque nous sommes en état de grâce, il y a en notre âme une bonne odeur qui attire notre Seigneur Jésus-Christ. Une bonne odeur qui attire les gens de bien vers cette personne, parce que justement, cette bonne odeur représente la grâce sanctifiante. Et au contraire, lorsque nous perdons la grâce sanctifiante, lorsque ces taches de lèpre spirituelle se sont installées dans la peau, eh bien, la bonne odeur du Christ que nous avons en nous depuis le baptême disparaît immédiatement. Enfin, la troisième étape, si vous voulez, dans la corruption par la lèpre, c'est la déformation des os eux-mêmes. La lèpre va finir par attaquer, après attaquer les muscles, va attaquer les os eux-mêmes, va provoquer des dégâts irréparables dans les os, et les os vont littéralement se tordre à cause de la puissance du virus de la lèpre. Eh bien, cela représente la troisième étape. Lorsque le péché mortel reste pendant trop longtemps dans une âme, eh bien, l'âme elle-même va être attaquée dans sa nature. On voit très bien aujourd'hui, pour détruire l'âme, surtout des enfants, des petits, on voit très bien que la révolution s'attaque à la nature même de notre humanité, s'attaque à l'intelligence, s'attaque à la volonté, s'attaque aux puissances de notre âme, pour que petit à petit, les premiers principes disparaissent. Une fois que les premiers principes ont disparu, le principe d'identité, le principe de non-contradiction, le principe de causalité, lorsque ces principes élémentaires qui servent de base à la formation de notre intelligence, au fonctionnement de notre intelligence, lorsque ces premiers principes ont disparu, alors le démon peut arriver et tordre complètement notre nature spirituelle, telle façon que pratiquement le bon Dieu ne puisse plus revenir dans cette âme, tellement elle est tordue. Eh bien, la guérison de notre Seigneur Jésus-Christ nous montre que notre Seigneur non seulement va effacer les taches brunâtres, non seulement va redonner une bonne odeur à ces malades qui ont été guéris par lui, mais va aussi, en quelque sorte, restaurer l'intégralité des muscles et des os du malade. Pour bien nous montrer que même lorsque nous sommes atteints en profondeur par la lèpre du péché, eh bien, le bon Dieu va restituer, rétablir, en quelque sorte, la beauté de l'âme devant Dieu. Non seulement ces péchés disparaissent, le bon Dieu les oublie et rend en quelque sorte la beauté de l'âme, Et dans certains cas, même va rendre la même beauté que cette âme avait au moment du baptême. D'autres choses intéressantes aussi que remarquent les pères se demandent, mais pourquoi il avait dit l'épreuve? La réponse est toute simple. Il a dit l'épreuve parce qu'il y a 10 commandements de Dieu. Et Père explique que le démon attaque, la lèpre du péché attaque chacun des commandements, pas simplement un ou deux, mais tous. Donc nous pouvons devenir lépreux avec n'importe lequel des commandements. Voilà pourquoi il faut impérativement garder avec beaucoup d'attention, beaucoup de soin, les 10 commandements dans notre âme. On voit notre Seigneur Jésus-Christ qui va ensuite renvoyer les lépreux aux prêtres. On peut se poser la question, pourquoi ? Dans bien des cas, notre Seigneur avait fait le miracle immédiatement. Pourquoi cette fois-ci attend-il ? Et pourquoi renvoyer les lépreux aux prêtres alors que les prêtres de l'Ancien Testament n'avaient pas encore le pouvoir sacerdotal, bien sûr ? Ils étaient des prêtres au sens large, mais n'avaient pas le pouvoir de pardonner les péchés, ils n'avaient pas le pouvoir encore de transformer le pain et le vin encore au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus de ça, au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, la plupart des prêtres à son époque étaient aussi des pharisiens, donc des gens bien corrompus de mœurs. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ les renvoie-t-il vers ses prêtres? Eh bien évidemment, le prêtre de l'Ancien Testament va représenter le prêtre du Nouveau Testament. Notre Seigneur Jésus-Christ est le grand prêtre par excellence. Étant le grand prêtre par excellence, notre Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir donc de pardonner les péchés. Et en allant vers le grand prêtre, il rajoute à l'acte de foi que les lépreux avaient déjà fait en disant « Seigneur, pardonnez-nous ». C'est un acte de foi par lequel il reconnaissait que notre Seigneur, le Messie qui était devant eux, avait le pouvoir de pardonner, d'enlever leur lèpre. Mais il va rajouter à cela, ils vont rajouter à cet acte de foi un acte de charité. Donc le mouvement vers les prêtres représente aussi la vertu de charité, la pratique des bonnes œuvres. Et pourquoi vers le prêtre? Parce que justement, le prêtre du Nouveau Testament reçoit du bon Dieu, a reçu du bon Dieu par son pouvoir sacerdotal, par son onction sacerdotale, par son ordination sacerdotale. Ce prêtre a le pouvoir justement, non seulement d'effacer les péchés, mais comme il agit au nom du Christ, il agit en la personne du Christ, il a le pouvoir même de rétablir la nature même de l'homme qui est tordu par le péché. Pourquoi? Parce que le prêtre, en allant vers le prêtre, les 10 lépreux ont fait un acte de foi en la motion de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils demandent quelque chose qu'on ne voit pas très bien, pourquoi il ne fait pas le miracle tout de suite, mais ça ne fait rien, ils nous demandent d'y aller, on y va, on ne pose pas de questions, on y va. Et ils ont été guéris. Et quelles sont donc ces trois fonctions du prêtre? Vous les connaissez bien, j'en parle souvent, magistère, ministère, gouvernement. On va vers le prêtre parce que le prêtre est l'homme du magistère, l'homme du ministère, l'homme du gouvernement. Et l'homme du magistère d'abord, bien sûr, parce que le prêtre est celui qui doit enseigner le dépôt de la foi. Enseigner un dépôt qui ne lui appartient pas, puisque ce dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres, Saint Jean. Donc le prêtre est celui qui doit enseigner, c'est-à-dire donner aux fidèles un enseignement qui ne vient pas de lui. Le prêtre n'a pas le droit d'enseigner quoi que ce soit de personnel. Je me rappelle Mgr Lefebvre qui nous a donné comme conseil au début du séminaire, je me rappelle, je n'ai pas oublié ça, il nous avait dit dans une des premières conférences spirituelles qu'il nous avait donné à nous, nouveaux séminaristes, tout frais pondus et tout frais venant du monde, il nous avait dit, les gens qui ont ici des idées personnelles en matière de dogme, vous pouvez partir, il n'y a rien à faire ici. Vous n'avez pas à avoir des idées personnelles en matière dogmatique, en matière morale aussi, bien sûr. Vous devez tout simplement apprendre à transmettre quelque chose qui ne vous appartient pas. À partir du moment où le prêtre cherche à transmettre quelque chose de personnel, il se coupe de notre Seigneur Jésus-Christ, il se coupe de l'Église catholique. On le voit très bien. Une des façons de prouver facilement, justement, qu'à Rome actuellement, personnes qui sont en autorité ne sont plus catholiques, c'est précisément qu'elles se sont coupées de l'enseignement traditionnel de l'Église. Donc le premier signe par lequel on reconnaît le prêtre catholique, c'est justement en voyant en lui quelqu'un qui transmet quelque chose qui ne lui appartient pas. Dès qu'on transmet quelque chose qui nous appartient, le prêtre catholique devient protestant. Le ministre protestant transmet ce qu'il veut transmettre. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a autant de protestantisme que de protestants. Donc la première fonction du prêtre, c'est transmettre le magistère. La deuxième fonction du prêtre sera de sanctifier. Il ne suffit pas de transmettre. La foi ne suffit pas. Il faut aussi la pratique de la foi, mes bien chers frères. La pratique de la foi se trouve justement dans l'application de la foi par les commandements du bon Dieu. On peut connaître son catéchisme par cœur, mais si on ne suit pas les commandements, c'est l'hypocrisie pure et simple. Donc le bon Dieu nous demande aussi le ministère, c'est-à-dire la sanctification par la pratique des commandements, par la pratique des sacrements. Non seulement je dois connaître mon catéchisme, mais je dois le pratiquer, je dois l'aimer, je dois y vivre de ce catéchisme en suivant bien sûr la loi du bon Dieu et en me confessant souvent pour pouvoir communier le plus souvent possible. C'est dans la mesure justement où je sais transmettre ce magistère et ce ministère que j'agirai en tant que prêtre. Et c'est dans la mesure où vous, fidèles, vous exigez de vos prêtres, je vais dire, le magistère et la sanctification catholique traditionnelle, que vous obtiendrez justement les grâces dont vous avez besoin. Cette sanctification est donc absolument nécessaire et tout est résumé bien sûr dans la Sainte Messe. Parce que c'est au pied de la croix, c'est par la Sainte Messe que nous récupérons bien sûr toutes les grâces que le bon Dieu a préparées pour nous au Vendredi Saint. La Sainte Messe n'est en rien d'autre qu'une petite clé en quelque sorte qui ouvre le coffre qu'a préparé notre Seigneur Jésus-Christ au pied de la croix le Vendredi Saint et qu'il a rempli de toutes les grâces que les prêtres vont pouvoir utiliser provenant de cette passion, provenant de ce coffre pour les diffuser à travers le monde afin que les fidèles puissent justement utiliser ces grâces pour se sanctifier et monter vers le ciel. La troisième fonction du prêtre, ce sera la fonction de direction. Magistère, ministère, gouvernement. Gouverner les âmes. Gouverner les âmes, non pas vers lui, malheur au prêtre qui attire les âmes à sa propre personne. Le prêtre est celui qui doit être comme un petit miroir, si vous voulez, sur lequel doit se refléter l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc les gens doivent venir voir le prêtre et derrière le prêtre trouver notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai roi, vrai prophète et vrai homme. Et c'est ce qu'ont fait les apôtres, c'est ce qu'ont fait les disciples, les dix lépreux sont allés vers les prêtres, et en allant vers les prêtres, vont retrouver l'intégrité corporelle. De la même façon, si nous aussi nous savons aller vers le prêtre pour lui demander les sacrements dont il est le dispensateur, si nous allons vers le prêtre pour recevoir par ses cours, par ses catéchismes, par ses sermons, l'intégralité de la foi catholique, alors nous verrons en nous, en nos corps, en nos âmes, nous verrons le nettoyage complet de nos âmes pour que nos âmes puissent devenir aussi resplendissantes si possible qu'elles l'étaient au baptême. Et il y a une chose que les pères font remarquer, c'est l'ingratitude de ces lépreux. Sur ces 10 lépreux, un seul revient. Et il dit que c'était un samaritain. Et 9 autres. Les 9 autres ont été guéris, ne se préoccupent même pas, justement, de revenir remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Et que fait une maman lorsqu'elle donne un cadeau, elle fait donner un cadeau à son enfant, et que l'enfant ne sait même pas dire merci. Qu'est-ce que fait la maman? La maman, immédiatement, reprend le cadeau tout de suite. Parce que l'enfant n'en est pas digne. De la même façon, mes bien chers frères, pensons, apprenons à remercier le bon Dieu. Pensons à cette fonction essentielle qui s'appelle la fonction d'action de grâce, que nous pratiquons bien sûr pas assez souvent. On pense à adorer le bon Dieu, on ne pense pas assez le remercier. Quand avez-vous par exemple pour la dernière fois remercié le bon Dieu pour le baptême? Quand avez-vous pour la dernière fois remercié le bon Dieu d'avoir conservé la foi aujourd'hui dans ce monde pourri? Quand avez-vous remercié pour la dernière fois le bon Dieu d'avoir la possibilité de venir assister à la Sainte Messe traditionnelle et recevoir le sacrement de l'Église? Vous voyez, on oublie de demander, de remercier le bon Dieu. C'est tellement important que c'est une des fonctions essentielles de la Sainte Messe, qu'on appelle la fin eucharistique de la messe, la fin eucharistique de la prière. L'eucharistie, c'est quoi? Dans ce sens-là, la fin eucharistique, ça veut dire la fin d'action de grâce. Savoir rendre grâce. Et donc il faut que nous apprenions, mes bien chers frères, souvent à venir nous agenouiller devant le bon Dieu. Et même à nous agenouiller devant le bon Dieu pendant nos prières à la maison pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, mais lui demander toutes les grâces dont nous avons besoin pour arriver à tenir cette grâce, à la conserver en nous. Le bon Dieu, le jour de notre baptême, nous a confié un diamant extraordinaire de beauté, qui étincelle, qui est tout resplendissant au soleil. Et ce diamant, il nous demande de le protéger, de le garder, de le chérir, de la façon que nous puissions venir l'apporter au bon Dieu le jour de notre mort. Donc il faut commencer par remercier le bon Dieu de nous avoir donné cette pierre précieuse de haute valeur. Il faut demander de remercier le bon Dieu de nous l'avoir confié, pour que si nous sommes gardiens de cette pierre, c'est quand même un degré de confiance extraordinaire que nous manifeste le bon Dieu. Mais il faut aussi demander au bon Dieu que nous ayons toutes les grâces dont nous avons besoin pour garder cette pierre intacte. Ce diamant, c'est l'état de grâce. Malheur à celui qui reçoit l'état de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne sait même pas prendre le temps pour dire merci. Malheur à celui qui reçoit la grâce sanctifiante et qui n'est pas capable de la conserver bien longtemps. Parce que justement, il ne fait pas suffisamment attention à tout donner, à tout demander à notre Seigneur Jésus-Christ. Malheur à celui qui compte sur ses propres forces pour garder cette pierre précieuse qu'il a reçue du bon Dieu. Cette pierre est un don, mes bien chers frères. Un don gratuit du bon Dieu, la grâce sanctifiante. Nous sommes absolument incapables de garder la grâce sanctifiante par nous-mêmes. Le bon Dieu est tenu en quelque sorte de nous donner des grâces actuelles, des grâces précises, afin que nous soyons capables de rester en état de grâce. Même lorsque nous avons retrouvé l'état de grâce après une bonne confession, nous pouvons malheureusement reperdre cet état de grâce extrêmement rapidement sans la grâce du bon Dieu. Donc il faut demander avec beaucoup d'humilité, bien cher frère, cette grâce de conserver la vertu de fidélité. La dernière vertu, qui est peut-être la plus importante pour nous, c'est la vertu de fidélité. La vertu de fidélité qui représente l'épanouissement de la vertu de charité est celle que le bon Dieu va nous demander au moment de notre mort. Si nous sommes restés fidèles, c'est-à-dire si nous avons gardé l'état de grâce et que nous pouvons nous présenter devant le bon Dieu le jour de notre mort en état de grâce, alors le bon Dieu va nous dire, viens, venez, bon et fidèle serviteur, possédez ce royaume des cieux qui a été préparé pour vous par avance. Malheureusement, si nous n'avons pas été fidèles, si nous n'avons pas su garder ce don extraordinaire qu'est la grâce sanctifiante, alors le bon Dieu va nous donner un discours tout à fait différent. Allez, maudit au feu éternel. Alors mes bien chers frères, il faut se maintenir dans l'humilité. Ce n'est pas la grâce du bon Dieu que j'ai été baptisé, ce n'est pas la grâce du bon Dieu que je conserve cette grâce sanctifiante, ce n'est pas la grâce du bon Dieu et par sa seule grâce que je serai fidèle jusqu'à la mort. Demandons cette grâce. Voilà pourquoi il faut communier souvent, voilà pourquoi il faut se confesser souvent pour avoir la force de garder cette intégralité de la grâce sanctifiante qui nous a été confiée. Malheur à celui qui justement ne fait pas attention à ces cadeaux invraisemblables que le bon Dieu nous a donnés. Alors nous prierons la très sainte Vierge Marie demain, c'est la fête de l'Assomption, une des plus grandes fêtes de l'année. C'est aussi le jour de la fête nationale en France, la fête nationale du catholique, c'est le 15 août. Donc demandons l'aide de la très sainte Vierge Marie. Elle a eu une grâce extraordinaire, elle ne pouvait pas perdre la beauté de son âme. La très sainte Vierge Marie, par son privilège extraordinaire de l'Immaculée Conception, n'a pas pu avoir un seul petit grain de poussière sur son âme. Son âme était immaculée depuis le début. Depuis le début de sa formation dans le sein de sa mère, Sainte Anne, eh bien, depuis le début de sa formation dans le sein de sa mère, elle avait une âme parfaitement immaculée. Cette âme n'a jamais été touchée par le péché. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie, qui est mère de Dieu, qui est reine des anges, qui est notre mère au ciel, demandons-lui de nous aider justement en ce jour de sa fête demain, de nous donner d'obtenir pour nous toutes les grâces dont nous avons besoin, parce que précisément, elle est co-rédemptrice du genre humain, elle est médiatrice de toutes les grâces passent par elle. Donc demandons-lui de savoir utiliser ses grâces sans avoir de crainte, parce que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas avare de ses grâces. Dès qu'il voit que nous ouvrons notre cœur, dès qu'il voit que nous savons remercier, tout de suite le bon Dieu nous donne des centaines de grâces, donc au-delà même de tout ce que nous pourrions demander par nous-mêmes. Mais encore une fois, ne comptons pas sur nos propres forces. Par nos propres forces, nous sommes incapables d'obtenir quoi que ce soit. Alors nous demanderons avec humilité à la très sainte Vierge Marie d'obtenir pour nous toutes ces grâces afin que nous soyons trouvés fidèles au moment de notre mort pour nous trouver un jour tous au paradis. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.